Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Delphine Darmon et vous écoutez Demain n'attend pas. Dans ce podcast, nous discuterons à bâton rompu et à cœur ouvert avec des hommes et des femmes qui travaillent à rendre le monde un peu meilleur. Ils sont entrepreneurs engagés, investisseurs à impact, fondateurs d'ONG, artistes activistes. Ils repensent les industries traditionnelles comme la mode ou l'agroalimentaire. Ils agissent dans les domaines de la santé, de l'éducation ou de l'environnement. Ensemble, nous échangerons sur leur parcours, les raisons de leur engagement et sur leurs projets. Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Quand j'ai rencontré Laure et que je me suis plongée dans son histoire, j'ai d'abord été absolument bouleversée par les chiffres qu'elle m'a rappelés. Alors, je vais les partager avec vous aujourd'hui. Savez-vous qu'il y a 1,2 milliard de jeunes entre 15 et 24 ans dans le monde et que un jeune sur trois habite dans un bidonville? Un jeune sur trois. Moi, ça m'a scotché. La moitié de ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi ne trouvent pas de vrai travail, d'emploi formel. Ils gagnent des sous par la mendicité, par des ventes informelles, parfois par de la prostitution. Et à ce rythme-là, ils ne peuvent pas sortir de la grande pauvreté. En 2025, on estime qu'un milliard de jeunes vivront sous le seuil de pauvreté, avec moins de 2 dollars par jour. Bon alors, une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous et moi, je ne sais pas. Laure, elle crée avec son mari John LP4Y, Live Project for Youth, une association dédiée à l'inclusion professionnelle des jeunes les plus démunis dans les pays les plus pauvres. Pourtant, rien ne prédestinait Laure à prendre ce chemin. Pendant 25 ans, elle et son mari avaient monté une entreprise d'événementiel à Bruxelles. C'était pas vraiment Sœur Teresa. Et pourtant. Écoutez Laure. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle et John ont quitté leur vie confortable à 40 ans passés pour partir faire un tour du monde en famille. Et comment des rencontres avec des jeunes au Sénégal, avec des communautés en Inde, des rencontres leur ont fait prendre conscience qu'ils pouvaient transformer des vies et aider des jeunes. Ils pouvaient s'ils s'appuyaient sur tout un écosystème local. Laure nous raconte comment ils sont passés d'une simple envie, d'une idée, à la création d'une association qui est aujourd'hui présente dans 14 pays, en Asie et au Moyen-Orient. Elle nous explique comment cette association envoie aujourd'hui des jeunes volontaires dans des bidonvilles pour des durées longues et comment ces volontaires accompagnent des jeunes de 15 à 24 ans dans leur recherche de travail. Aujourd'hui, ce sont près de 2000 jeunes qui sont formés chaque année dans des centres de LP4Y et qui sortent du cycle de la grande pauvreté. Cet épisode nous montre qu'on peut rêver d'un monde meilleur et qu'on peut participer à le faire advenir. Alors, comme le dit Laure, « Together we can ». Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laure.
Bonjour.
Avant de rentrer dans le vif du sujet et que tu nous parles d'LP4Y, je voudrais que tu te présentes et que tu commences par le commencement, que tu nous racontes où est-ce que tu as grandi, avec quelles valeurs tu as été élevée et que tu vois qu'on puisse comprendre comment est-ce que cette idée, j'allais dire saugrenue, mais au contraire vraiment fondamentale, t'est venue.
Moi, je suis issue d'une famille de 5 enfants, des parents formidables, une enfance extrêmement heureuse, plutôt parisienne entre Paris et le Jura. Donc le Jura, autre passion de notre vie, enfin de ma vie. Et puis, donc voilà, des frères et sœurs, plein de neveux et nièces, bon, donc une famille formidable. Et puis, j'ai fait Sciences Po, bonne élève, j'allais dire, sans excès. Mais,
ta famille était engagée d'une façon ou d'une autre ?
Pas vraiment. Je pense que c'était une famille qui était extrêmement... chaleureuse, tournée vers les autres certainement, vers l'attention en fait aux autres, mais pas particulièrement engagée, tu vois, dans des grandes causes, pas militante en tout cas, mais très à l'écoute en fait du monde, et j'allais dire une maman extrêmement spirituelle, et un père un peu, avec beaucoup d'humour et beaucoup de recul en fait sur le monde.
Donc tu grandis surtout très joyeusement.
Voilà.
Qu'est-ce que tu t'imaginais faire comme métier à ce moment-là ?
Alors j'ai eu très envie quand j'ai terminé Sciences Po de faire du journalisme. J'ai tenté l'école des journalistes du journalisme rue du Louvre à l'époque, que j'ai raté lamentablement. Mais je crois qu'en fait, c'était pas vraiment ma voix. Je pense que ma voix était plus du côté de présenter des idées, j'allais dire de vendre des idées. Enfin, j'étais plus du côté commercial, mais commercial dans un sens, tu vois, être vraiment convaincre. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a beaucoup touchée à cette époque. Et je dis souvent avec les jeunes qu'on accompagne, quand il y a une petite lumière, tu sais, ça j'adore cette expression, quand il y a une petite lumière qui s'allume dans les yeux, on sait qu'on est sur la bonne voie. Et je pense que là, à cette époque, j'ai eu cette petite lumière de dire, en fait, j'ai envie d'aller convaincre, j'ai envie d'aller... Oui. Alors, à l'époque, j'ai démarré quand même dans la presse. Donc, j'ai été directeur de clientèle pour des journaux, des magazines, notamment, par exemple, l'événement du jeudi. On a lancé l'événement du jeudi avec Jean-François Cannes. Voilà. Et donc, c'était des chouettes époques, le Matin de Paris. On avait Libération en face de nous. Enfin, bon, oui. Donc, c'était très intéressant. Et je m'occupais de toute la partie spectacle, édition, le culturel, etc. Donc j'ai écumé tous les théâtres parisiens, etc. Sympa. Donc c'était passionnant, les concerts, etc. Bon, les maisons de disques. Donc ça a été toute ma première période professionnelle, mais toujours à convaincre et toujours dans le networking, la rencontre avec des personnes, oui, des personnalités. Et ça me passionne. Les petites lumières s'allument. Et puis, après, il y a eu vraiment un tournant. D'abord la rencontre avec mon mari, donc jeune, puisqu'on s'est mariés, moi j'avais 21 ans, lui 23 ans.
Oh waouh, ouais. T'as rencontré l'amour.
Exactement. Et là, effectivement, on a un peu changé nos perspectives. Enfin, on a surtout entrepris, en fait, on a commencé à vraiment entreprendre ensemble et on a créé une organisation qui s'occupait d'événements. On a travaillé dans le marketing et la communication avec des grandes entreprises pour organiser leurs événements. Et avec effectivement l'idée depuis le départ de ne pas sous-traiter, mais de vraiment créer nos propres moyens de production. Et j'ai aimé l'entreprise, et je pense que ça, je le garde aujourd'hui dans ma vie, c'est j'ai vraiment aimé l'entreprise et tout cet élan que l'on peut voir dans ce moment de cristallisation qu'est l'événement. Voilà, et puis j'ai à cette époque beaucoup travaillé dans les parfums, j'ai beaucoup travaillé avec des maisons, des grandes maisons, et ça, j'ai adoré aussi cet aspect-là.
Alors, vous avez fait ça combien de temps? Parce que j'ai une espèce de saut quantique entre effectivement une vie corporate relativement longue, de ce que je comprends.
25 ans, à peu près.
C'est ça, c'est déjà toute une vie en fait professionnelle. Et puis un moment où vous partez en famille autour du monde qui va être le début d'une autre vie. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Est-ce que vous avez mené votre entreprise d'événementiel pendant ces 25 ans? Et c'est suite à ça, suite à une vente, que vous êtes parti, ou est-ce qu'il y a eu plusieurs vies? Tu vois, qu'est-ce qui est...
Simplement, on a eu le 11 septembre au milieu de tout ça. Les tours qui se sont écroulées, l'événementiel qui a été complètement paralysé pendant des années. Enfin, et ça a été extrêmement violent. Donc là, effectivement, notre entreprise a fermé. On a réussi à bien accompagner toutes les équipes jusqu'au bout. Donc là, ça a été un peu une remise en question. On a eu quelques années où on a été des consultants indépendants. Donc là, où on a développé pas mal de nouvelles expériences, mais très intéressantes. Mon mari, plus du côté des ressources humaines. Et moi, j'ai continué l'événementiel avec des partenaires américains. Donc ça, c'était passionnant. Et puis voilà. Et puis il y a 2008 qui a été notre date un peu, j'allais dire, fétiche, qui a été cette décision de partir autour du monde en famille.
Qu'est-ce qui a fait germer l'idée de ton association? Comment est-ce qu'on passe d'un tour du monde familial qui est finalement un grand voyage très joyeux, des énormes vacances d'été, à cette idée de construire pour les autres?
Alors ça a été un cheminement, effectivement, je crois que tu l'as dit là, mais ça a été vraiment une route incroyable de signes. On a vraiment eu des signes tout le temps. Ça fait un peu illuminé de le dire, mais on a vraiment eu des signes. On est parti, c'était tellement, comment dire, ressourçant de partir. C'est une chance tellement énorme de se mettre à l'écoute du monde, comme on l'a fait, parce qu'on est parti sans a priori. Il fallait juste que les enfants fassent un peu de leur travail et envoient leurs devoirs tous les mois. Mais autrement, on est à l'écoute, quoi. On est à disposition. Et du coup, on a le regard qui se tourne vers des choses qu'on n'aurait pas forcément vues, évidemment, dans notre vie de tous les jours, rythmées, etc. Et on a eu des appels. On a eu l'appel je le raconte parce que pour moi, c'est les fondateurs de notre idée, de notre mouvement. C'est les petits cireurs de chaussures de Dakar qui sont des petits gamins, enfin des jeunes, pas des gamins, des jeunes qui avaient entre peut-être 12 et 15 ans. Que l'on croisait tous les matins en allant chercher le pain à Dakar, quand on a retrouvé des boulangeries avec du pain, parce que ça, on n'en avait pas eu pendant beaucoup de temps pendant notre voyage. Et ces petits cireurs de chaussures nous interpellaient, ont interpellé John, parce qu'il s'était intéressé à eux, il avait commencé à discuter avec eux, il s'asseyait sur le trottoir et il leur disait, mais pour ta boîte à chaussures, là, est-ce que tu pourrais pas, vous pourriez pas la réparer un peu parce qu'elle est un peu machin pour vos clients, et puis pourquoi vous vendriez pas des lacets, et puis pourquoi vous installeriez pas là parce que y a plus de gens, y a plus de clients. Donc ils faisaient du marketing, quoi, vraiment avec eux, et ils les coachaient, et il y a à aucun moment ils n'ont demandé de l'argent. Et tous les matins, moi, quand je passais un peu plus tôt, ils me disaient, et il est où ton mari, voilà. Et pendant 10 jours, ils ont été vraiment à l'écoute, quoi, de ces échanges. Et ça, franchement, ils nous ont mis sur la voie. C'est-à-dire, on s'est dit, là, on a un truc à partager, en fait, avec ces jeunes qui sont juste incroyables, qui ont traversé toute l'Afrique à pied, ils nous ont raconté, pour venir finalement arriver à Dakar. Ils ont fui des pays en guerre. Ils partageaient une chambre. Ils étaient 5 ou 6. Ils nous ont dit qu'ils avaient 16 ans ou 17 ans, mais franchement, ils étaient plus jeunes. Et eux, ils nous ont mis sur la voie, quoi, vraiment.
Comment on passe de cette envie à la définition d'un projet ? Tu
peux servir. Ben, je pense que, toujours pareil, ça a été extrêmement progressif. Mais par exemple, je pense, quand je t'entends, je pense à quelque chose là qui me vient et qui était très, très fort. C'est le pouvoir. Enfin, on a compris pendant ce tour du monde le pouvoir de mobiliser d'autres personnes que nous. Et il y a un exemple incroyable qui est notre passage dans le Kerala. Donc là, c'est l'Inde. Donc le sud de l'Inde, près de, donc Alepé, donc la Venise de l'Inde, cet endroit incroyable avec des canaux magnifiques et tout. Et on passe un mois au moment de Noël, et puis du coup j'ai une de mes sœurs qui vient nous rejoindre, une amie qui vient nous rejoindre avec sa fille et tout ça pour passer Noël. Et là, on arrive dans ce petit village de pêcheurs. On rencontre une ou deux personnes, on leur raconte ce qu'on veut faire. Et puis, ils nous trouvent une petite maison que des pêcheurs vont nous mettre à disposition. Et on refait avec eux cette maison. On la retape complètement pour pouvoir leur laisser après que l'on reparte. On la repeint, on nettoie tout autour. Il y avait des détritus partout autour. On remet du sable. On était au bord de la mer. C'était magnifique, sauf qu'il y avait plein d'ordures partout. Et tout ça avait été figé parce qu'il y avait eu le tsunami quelques années avant. Et donc les pêcheurs n'allaient plus pêcher, avaient peur de pêcher. Tout était resté à l'abandon et on arrive là-dedans. Et en fait, en un mois, avec la communauté, enfin petit à petit, hein, leur communauté en plus 3 religions, les hindous, les musulmans et les chrétiens, puisque le Kerala est catholique à majorité, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Ce qu'on appelle aujourd'hui la catalyse, mais vraiment le déclencher une réaction. On arrive dans un lieu qui est complètement perdu, mort, et on redonne la vie, mais juste par le fait d'être là, le fait d'arriver un peu de l'extérieur, d'apporter. Et donc on a eu une fête de Noël, mais magnifique, avec toute la communauté. Et le lendemain matin, on se réveille, et en fait, il y avait toute la communauté qui était en train de nettoyer la plage. Parce qu'on avait fait un espèce de petit chemin au milieu des détritus pour aller se baigner. Et toute la communauté était en train de nettoyer la plage. Et on avait passé la veille une soirée magnifique tous ensemble, quoi. Et donc, c'est ça qui a déclenché un peu le fait de dire, mais finalement, nous, avec très peu de moyens, on va pouvoir entraîner. Enfin, on ne se l'est pas dit comme ça aussi clairement à l'époque, hein. Là, c'est au bout de 15 ans que je dis ça. Mais on a dit, on peut y aller, on peut démarrer quelque chose.
C'est quelque
Comment t'enchaînes sur la création d'LP4Y?
Alors effectivement, on fait une petite fête quand on rentre. Donc on n'avait plus de maison, puisque entre-temps, on avait vendu notre maison, ce qui nous a permis du coup de démarrer l'aventure après, parce qu'en fait, au départ, personne ne te fait confiance. Quand tu arrives et que tu dis « je veux créer un mouvement pour les jeunes les plus exclus », on rigole et on dit « ils sont gentils, ils sont un peu utopistes ». Donc au début, heureusement, on a eu un petit peu de sous pour financer les premières années avant qu'on nous fasse vraiment confiance. Et du coup, on a fait une petite fête et puis on a dit on veut démarrer, et on va repartir. Donc c'est vraiment, on n'avait plus rien en fait. On avait tous nos meubles étaient dans le Jura, dans un grand garage.
Ça aide à repartir.
Ça aide à repartir, exactement. Alors il y avait les enfants quand même. Donc Pauline a dit moi je reste au lycée français à Bruxelles. Elle est restée donc chez sa marraine. Et puis on est parti avec les deux plus jeunes qui ont dit ok, on y va. Enfin, tout le monde n'a pas le choix. On part avec les parents. Et donc on a décidé effectivement de partir aux Philippines. Et pourquoi les Philippines? Parce que c'est un des pays en Asie qui nous a semblé être le plus accessible en termes de langue, notamment, et de culture.
Alors effectivement, tu lances en 2009 à Manille, et le premier projet, on va en reparler, ton premier projet, c'est 14 jeunes entre 18 et 20 ans qui sortent de prison et que tu vas aider à avoir une insertion professionnelle. Vu de l'extérieur, tu te dis, vous avez été choisir la difficulté.
Vous cherchez la difficulté, oui. Ouais.
Pourquoi ce projet-là? Qu'est-ce qui vous a amené vers ces jeunes-là? Pourquoi les sorties de prison? Raconte-moi.
Là, c'est encore une question de rencontre. C'est-à-dire que pendant le tour du monde, on avait rencontré effectivement d'autres organisations. Nous, on était nous-mêmes parrains de jeunes, d'enfants du Mékong. Donc, on avait noué des liens. C'est eux qui nous ont accueillis quand on était pendant le tour du monde à Manille. C'est les fameux bambous d'enfants du Mékong qui nous ont accueillis. Et puis ensuite, on a rencontré d'autres associations, dont une association qui travaillait avec des jeunes en prison et qui nous a proposé de collaborer en fait avec eux sur cette approche, cette nouvelle approche qui était vraiment entreprendre sa vie et passer à autre chose en fait pour des jeunes qui avaient été extrêmement touchés dans leur enfance. Et essayer de faire revenir un peu cet esprit de résilience, leur redonner envie.
Expérience traumatique en prison.
Exactement, exactement. Alors oui, alors on peut imaginer, t'imagines bien ce que peuvent être les prisons aux Philippines. Et donc on a eu la chance effectivement de travailler avec ces personnes. Ce sont des sœurs. Donc l'organisation s'appelle Akai. Et donc on a démarré avec elles un petit programme, une espèce de pilote. Donc qui s'est appelé à l'époque Green Programme et qui consistait effectivement à aller chercher des légumes au Rungis local à Manille pendant la nuit, acheter des légumes et des fruits et ensuite aller revendre, donc commander en amont par ces personnes et aller leur livrer effectivement ces paniers de fruits et légumes. Donc c'était une activité extrêmement simple, mais qui permettait, simple et pas simple, mais qui permettait à ces jeunes de tout de suite se mettre dans l'action. Ce qu'on appelle aujourd'hui le learning by doing, oui. Mais quand...
Tu les accompagnais en fait sur une première activité professionnelle en sortie de prison. Et... tu dis, je comprends bien que vous aviez rencontré pas mal d'associations lors du tour du monde. Pourquoi ne pas rejoindre une association et la développer? Qu'est-ce qui, à ce moment-là, génère chez vous l'envie de créer?
Alors, je crois qu'on ne l'a pas vu d'une manière négative, dans le sens « ils n'ont pas fait ci ». Je pense qu'on s'est toujours dit... tout le monde fait des choses formidables. Enfin, moi, j'ai envie de dire, je suis très, très positive sur l'ensemble des personnes qui s'engagent et qui font. Déjà, ils font, donc c'est déjà bien.
Je te pose cette question comme ça, parce que ça peut paraître plus simple de rejoindre et développer que d'aller créer.
Mais je crois qu'effectivement, alors, pas en creux, mais en plus, on s'est dit qu'on avait quelque chose à apporter de plus. qu'on avait quelque chose à apporter de plus dans la partie entrepreneuriat, dans la partie connaissance du monde professionnel. Peut-être que le monde social, si tu veux, nous apparaissait comme un monde qu'on ne connaissait pas vraiment très bien. Et on s'est dit, finalement, ben, nous, on peut apporter quelque chose de plus, et c'est plus facile, finalement, de démarrer quelque chose à notre patte sur cet aspect-là d'être en complément de personnes qui n'ont pas, du coup, forcément cette notion-là.
Votre niveau, comment est-ce qu'on construit aussi contre son désir potentiel qu'on peut avoir d'aller sauver ces jeunes au-delà de la mission pure que vous êtes fixé avec la création de votre mouvement?
Je crois que très vite, on s'est dit, je me souviens, le premier claim, le premier motto, phrase d'LP4Y, c'était « I can't, but together we can ». Et très vite, on a arrêté le I can't, parce qu'on trouvait que, ben voilà, on est plus dans une...
Tu peux le définir par un négatif.
Voilà, exactement. Mais le together we can, vraiment, alors on le dit toujours, et je termine souvent mes petits speeches avec ça, mais pour moi, c'est tellement révélateur oui, bien sûr, on n'est pas les sauveurs du monde, on ne va pas réussir à tout, on ne va pas adresser tous ces challenges, tous ces sujets, on ne va pas les résoudre, mais avec notre présence déjà au cœur des bidonvilles, avec le lien qu'on peut créer avec toutes les personnes autour, on appelle ça l'écosystème, c'est utilisé beaucoup aujourd'hui ce terme, mais on l'a utilisé depuis très longtemps, toutes ces personnes autour, les ressources des personnes, le personnel de santé avec qui on est en connexion, pour donc justement des jeunes qui ont des addictions, le système éducatif, les universités qui développent de plus en plus maintenant le CSR, les municipalités, tout ça fait qu'on est au cœur d'un dispositif et qu'on pense que c'est ça qui va nous permettre de multiplier notre impact aujourd'hui.
Vous allez passer en une quinzaine d'années de 14 jeunes à aujourd'hui, vous en êtes à combien, 1500 jeunes, c'est ça?
Oui, alors fin 2023, je crois qu'on est à 1600 plus, et on pense effectivement 2024 être à 2000 jeunes.
2000 jeunes formés sur une année ?
Par an, voilà, c'est ça. Donc, tu vois, depuis 2009, on est à plus de 8000 jeunes accompagnés.
Le tout sur, on disait tout à l'heure, une quinzaine de pays.
On est présent dans 14 pays et on accompagne concrètement des jeunes dans 7 pays d'Asie et au Liban.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment ça fonctionne aujourd'hui, maintenant que... Alors, on a 15 ans derrière nous, les principes sont maintenant très structurés, tu vois, et ce que vous avez pu tester à Manille, en fait, les principes vont globalement se déployer, c'est vraiment
se répliquer.
Donc raconte-nous comment fonctionne aujourd'hui, prends-moi un exemple dans un des centres, un des territoires où vous êtes.
Alors, si tu veux, on est effectivement donc dans 7 pays d'Asie et au Liban, et puis donc c'est pour ça que je dis Moyen-Orient parce qu'enfin on va être très prochainement, on l'espère, en Égypte. Là, l'idée, si tu veux, c'est que on a une pédagogie qui accompagne des jeunes donc issus de la grande exclusion et victimes de pauvreté, pauvreté-exclusion, qui sont les deux termes importants, parce qu'on peut être pauvre et pas forcément exclu, mais l'exclusion, c'est sorti du système scolaire, être une très jeune maman, avoir été abusée, avoir été en prison ou être en prison, etc., parce qu'on a deux programmes actuellement qui tournent en prison aux Philippines. Donc c'est ce cadre-là de jeunes. Et après, effectivement, on a créé, donc au cours de ces 15 ans, deux modèles pédagogiques qui sont soit des centres au cœur des bidonvilles, en milieu urbain, qu'on appelle des Training and Development Centers, et des centres en milieu rural qui s'appellent des Green Villages. Et dans ces Green Villages, donc les jeunes sont en résidentiel et donc suivent un programme pendant 3 mois. Où ils sont vraiment complètement immergés pendant 3 mois dans le centre. Et puis dans les milieux urbains, dans nos Training and Development Centers, les jeunes viennent 6 mois. Donc c'est assez incroyable. Et en même temps, par rapport à peut-être d'autres organisations qui touchent des jeunes, etc., nous c'est extrêmement intense et c'est 700 heures de formation ou 1000 heures de formation complètement dédiées, effectivement, à changer de vie, quoi. Enfin, donc c'est vraiment quelque chose qui va être très intense pour le jeune et une expérience qu'il va garder toute sa vie.
Si je suis un jeune, donc je suis concernée et que j'intègre un de tes programmes, comment est-ce que ça va se passer? Comment je suis accueillie? Par qui? Comment se passe ma formation?
Alors déjà, tu es un jeune, tu fais rien depuis des années, tu es effectivement laissé pour compte, la communauté ne te regarde même plus, tu es complètement exclu, tu mendies, tu ramasses quelques bouteilles en plastique dans la gare de Delhi pour et puis tu es avec d'autres et puis vous essayez de les revendre, tu vois, bon, c'est un peu ça.
Pour manger le soir.
Pour manger, tu piques un peu, tu chapardes un peu, etc. Tu vis sur les voies près de la New Delhi Railway Station. Je pense à ça parce que c'est vraiment, je vois les maraudes qu'on a fait dans ces endroits. Et puis, un jour, tu as des personnes qui viennent. Alors, il y a des étrangers, puis il y a des gens de mon pays qui viennent à ma rencontre, qui viennent à ta rencontre et qui te demandent si tu veux rejoindre le centre pour apprendre l'anglais, pour peut-être penser à une autre vie, etc. Au début, c'est pas du tout clair pour toi, mais tu as un copain qui y a été et du coup, tu y vas. Ou une amie, on va dire les femmes, parce qu'on accompagne 86% de femmes, donc on va dire, c'est toi, femme, et puis, donc tu as une amie qui va, donc vous décidez d'y aller avec elle, c'est moins difficile, et puis tu es accueilli dans ce centre, donc là, qui est vraiment au milieu, pas loin de l'endroit où tu es, de ta zone où tu vis, et tu arrives dans ce bidonville, dans ce centre, où là, tu es accueilli par une équipe, donc d'autres jeunes comme toi, donc ils sont à peu près 17, 15, 17. Tu as un coach qui t'accueille, donc tu as un coach soit international, donc tu n'as pas de nationalité, soit une coach indienne qui t'accueille. Là, on est à Delhi. Et donc souvent, les centres sont biculturels. Et tu vas plonger, alors ce qu'on appelle un peu, c'est la fameuse « Welcome Week », où tu découvres un peu cette équipe et où, en général, on te propose, on paye ton transport, on t'aide un petit peu dans cette première semaine pour savoir si tu as envie de rester ou pas. Et généralement, au bout de cette semaine, on te demande d'écrire ce qu'on appelle une lettre de motivation. Alors, soit tu sais écrire, soit tu ne sais pas très bien écrire. Trois mots d'anglais, mais bon, c'est la volonté de l'engagement, en fait, du jeune, de la jeune, de dire qu'elle a envie de rester.
Tu disais que toutes les communications avaient lieu en anglais.
Oui. Donc, plongé, t'es immergé. Donc, t'as un peu appris l'anglais parce que t'as quand même discuté avec des voyageurs de la gare et tout. Donc, tu dis trois mots d'anglais, etc. Mais t'es complètement immergé. Sauf que tu as des jeunes qui vont te mentorer, t'expliquer, traduire en hindi quand tu comprends pas. Et puis à l'issue de cette Welcome Week et de ta lettre de motivation, tu intègres le programme. Et là, tu vas passer par différentes étapes au cours de ces 6 mois. Tu vas avoir une étape de 2 mois à peu près d'autonomie, où tu es en autonomie step, où donc là, tu vas apprendre petit à petit les règles. J'arrive, j'ai avec des chaussures fermées. Bon, alors comme je reçois mon Life Project Money, je vais pouvoir petit à petit m'acheter une paire de chaussures. Pantalon ou tenue professionnelle pour les filles. Tu vas recevoir un polo aussi, donc le polo de l'équipe, donc qui va te donner ton ID aussi, donc ton comment dire, un badge qu'on donne souvent quand on va visiter les entreprises, etc. Donc tout ça, une reconnaissance importante. Donc ça, c'est deux premiers mois où tu apprends à être autonome, venir à l'heure. Et la deuxième étape, c'est donc responsibility step, où là, je prends petit à petit des responsabilités dans l'équipe. Alors, il y en a déjà un peu quand je suis en autonomie, mais là, du coup, je vais devenir, alors pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, je vais devenir un peu timekeeper, je vais vérifier qu'on est bien à l'heure dans les trainings. Petit à petit, je prends des responsabilités. Et puis ensuite, je vais passer en étape de management, donc où là, vraiment, je prends en main des activités du centre. Puisqu'en fait, on va revenir, mais que font les jeunes dans ce programme? Et donc, c'est les étapes. Et à la fin de ma période de management step, je rentre en entrepreneurship step, où là, je cherche du travail. Donc, c'est un peu toute une progression où le jeune, petit à petit, reprend confiance en lui, apprend ce que c'est que le leadership et prend en main des projets.
Alors, on sent bien que ça fonctionne aussi parce que tu as des équipes mixtes entre
c'est une grosse
des bénévoles
force.
Locaux et des bénévoles internationaux. Mmh. Et effectivement, on comprend bien dans ce que tu nous décris que tu as besoin des deux. J'aimerais qu'on zoome un petit peu sur ces bénévoles internationaux.
Alors, bénévole étant pas tout à fait le terme,
c'est-à-dire le terme ça
administratif,
hein.
C'est des volontaires déjà, enfin sous statut. En l'occurrence, les Français sont sous statut de volontariat de solidarité, ou les Européens, volontariat de solidarité internationale. Donc c'est vraiment un statut porté par le ministère des Affaires étrangères, encouragé par le ministère des Affaires étrangères, et avec une indemnité, une petite indemnité. 200 euros, 300 euros, 600 euros au bout de 3 ans. Hein, donc on en est là. Mais c'est vraiment un statut. Et donc nous, on valorise énormément cette approche.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu quels sont leurs profils et tu vois, comment ils intègrent chez vous, comment vous les préparez à arriver dans ces environnements, qui n'est pas forcément évident, et comment vous les accompagnez une fois sur place?
Alors, c'est donc effectivement, j'allais dire, c'est une approche complètement différente, peut-être de par rapport à un salarié qui travaille dans une organisation humanitaire. Je pense que là, on est vraiment dans une... ce qui nous frappe beaucoup hein, dans les candidatures que l'on a, et on en a pas mal, un peu moins depuis le Covid, mais on en a beaucoup, c'est la recherche de sens. Le profil type hein, d'un catalyste, c'est, je crois, moyenne d'âge 27 ans, plus de femmes que d'hommes. On manque un peu de jeunes hommes, parce qu'on aimerait bien que ça soit complètement, évidemment, mais beaucoup, beaucoup plus de femmes. Recherche de sens, souvent quelques années d'expérience professionnelle avant. Et cette volonté de s'engager, quoi, d'avoir un engagement solidaire avec une grande professionnalisation. Et ça, je pense que c'est aussi l'image qu'a LP4Y aujourd'hui. C'est que comme on travaille, qu'on accompagne des jeunes vers leur inclusion sociale et professionnelle avec cet écosystème incroyable autour, et puis nous venant de l'entreprise... On a du coup un système qui est très professionnel.
Ouais, il faut être très exigeant, bien sûr.
Voilà, on doit faire très très attention à toute la capitalisation. Comme on a des équipes qui se renouvellent, il faut que du coup la capitalisation soit parfaite pour pas qu'on démarre toujours sur d'autres modèles. Donc là, depuis 15 ans, on a vraiment capitalisé et on s'améliore tous les jours. Et c'est ça aussi qui fait la richesse, je pense, de cette organisation. C'est justement ces talents qui arrivent. Faut avouer que quand on a passé un an, deux ans, trois ans dans les bidonvilles, on est fatigué au bout d'un moment, hein, on peut le comprendre. Et du coup, le fait d'avoir du sang neuf qui arrive et qui arrive avec cette nouvelle énergie, c'est juste incroyable. Ce que je t'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on, dans le learning by doing, c'est-à-dire la micro, petite entreprise que les jeunes développent, ils les développent pour la communauté. C'est-à-dire eux-mêmes se forment et ensuite ils vont former la communauté. Donc là aussi, on multiplie notre impact, mais d'une manière très naturelle, en fait, très vertueuse. C'est que, à leur tour, eux donnent des cours aux enfants d'informatique, des trainings de nutrition à la communauté, dans leur communauté de femmes, du well-being, tu vois, pour savoir comment être bien dans sa peau, même quand on est pauvre. Enfin, je veux dire, donc, tu vois, donc il y a tout un effet des multiplicateurs, voilà. Et la troisième mission d'LP4Y, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le plaidoyer, c'est le faire campagne, où là, effectivement, on a aussi l'ambition de porter la voix des jeunes, enfin, de les accompagner pour qu'ils puissent eux-mêmes porter leur voix. Et qu'on a des jeunes qui ont parlé aux Nations Unies et que c'est pas à nous de parler de ce que c'est que la pauvreté et de ce que c'est que l'exclusion pour la jeunesse, c'est à eux de porter leur voix. Et donc là, ben voilà, on le fait depuis 15 ans, mais on a vraiment réussi à avoir des prises de parole qui ont marqué, si tu veux.
Si je te demande aujourd'hui de te retourner et de regarder ce que l'engagement t'a apporté, qu'est-ce que tu me répondrais ?
Un immense bonheur, je crois que... tu sais, ce qui est formidable, c'est quand on commence à être un peu, j'allais dire au service des autres, mais en tout cas tourné vers une cause comme ça qui nous tient à cœur très très fort, c'est génial de voir aussi le nombre de personnes finalement autour de toi qui sont prêtes à t'aider. Alors on aimerait bien que ce soit encore plus, tout ça, mais moi je me dis c'est trop bien, enfin je veux dire on est trop heureux. Et puis ces 150 catalystes qui sont aujourd'hui sur le terrain, ces centaines de bénévoles qui nous aident en France, en Europe, aux États-Unis, tu vois, tu te dis mais hier soir il y avait encore un concert organisé à Paris, tu vois, au profit d'LP4Y, et tu te dis ben voilà, c'est trop bien, enfin je veux dire c'est le bonheur.
Je vais malheureusement devoir conclure, j'en viens à mes questions finales, Laure. J'aime à demander à mes invités s'ils ont un livre qu'ils aiment transmettre aux auditeurs qui nous écoutent. Quel serait ton livre ?
Il y a un livre que j'adore et que tu n'as pas encore lu, mais qui est le livre écrit par une de nos catalystes, enfin ancienne catalyste, Lucie Dubert, qui s'appelle Baini. Donc ça s'appelle ses petites sœurs en népalais, qui est un livre magnifique sur son témoignage de mission, qui est sorti l'année dernière.
Dernière question, à qui tu aimerais passer le micro ?
Et ben tu vois, je me disais, on n'a pas parlé d'un projet que j'adore, enfin qui me tient énormément à cœur et qui va se déployer dans les années qui viennent. C'est le film que des anciens catalystes LP4Y sont en train de tourner. Enfin là, on a terminé le tournage, on est en post-production à côté. Enfin là, en ce moment. Et tu vois, une personne que je voudrais que tu interroges, c'est la réalisatrice Rachel Sizinski, qui est voilà formidable, qui a été jusqu'en finale de la Fémis et puis qui nous avait toujours promis qu'elle ferait un film, voilà, et elle est en train de le réaliser.
Laure, merci beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. C'est un grand moment de joie. Et puis, je garderai comme dernière phrase, forcément, « Together we can
». Merci Delphine.
Grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcasts. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain N'attend Pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.